VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Élections aux Comores, 11 candidats au scrutin présidentiel du 24 mars dans l'archipel de l'océan Indien se sont organisés en collectif pour exiger des élections crédibles et transparentes. Il nous faut assurer une sécurisation du vote pour avoir des élections au-dessus de tout soupçon, a déclaré ce mercredi à la presse le porte-parole de l'opposition, Mustapha Saïd Cheikh. Dans un communiqué, le collectif estime que les garanties d'élections libres ne sont pas réunies et dit craindre un hold-up électoral en préparation. Le président Azali Assoumani, qui brigue un nouveau mandat, ne cessant d'évoquer avec son entourage une victoire dès le premier tour. D'où la requête du collectif exigeant un comptage manuel dans tous les bureaux de vote en présence des représentants des candidats. Élection au Sénégal, le magistrat Demba Kandji, président de la Commission nationale de recensement des votes, CNRV, devrait annoncer sous peu les résultats provisoires de la présidentielle du 24 février. Son verdict est attendu incessamment à Dakar, alors qu'opposition et majorité s'accusent mutuellement de tentatives de manipulation. Les résultats diffusés par les médias sénégalais qui ont collecté les données des procès-verbaux affichés devant chaque tribunal départemental ont conforté l'optimisme du camp présidentiel qui, dès dimanche soir, avait revendiqué par le biais du Premier ministre Mohamed Boune Abdallah Dione la victoire du président Macky Sall dès le premier tour. Selon la loi sénégalaise, le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer les résultats définitifs du scrutin après examen des recours. Sénégal toujours, les nombreuses confréries actives dans le pays ne s'occupent pas seulement de religion. Elles sont également le socle de la stabilité nationale. Mouride, Tidjane, Kadir, Layène, elles sont au centre de la vie politique sénégalaise. Dans l'attente des résultats de la présidentielle, Salwa Jafari s'est rendu à Touba, le quartier général des Mourides. Voici son reportage.
Avec ses artères étroites et ses ruelles ensablées, Touba n'a peut-être l'air de rien, mais son rayonnement est indéniable. Au bout de cette route, la grande mosquée de Touba. Chaque année, au mois de novembre, des millions de pèlerins convergent vers ce lieu saint pour le Grand Magal. La commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie Mouride. Pour le talibé Saline Saliou, le mouridisme est bien plus que ça.
La tariqa mouride représente pour nous et pour moi personnellement tout. Parce que l'islam est égal au mouridisme. Et le mouridisme est égal à l'islam. Et que le mouridisme, c'est la voie qui nous mène au Seigneur de façon pacifique.
Un lien spirituel dont les politiques sont bien conscients. La confrérie Mouride, Tidjane, Layène ou autres sont donc sollicitées avant chaque élection présidentielle. Souvenez-vous, au lendemain de son élection, Abdoulaye Wade était venu se prosterner en signe d'allégeance devant Serigne Saliou Mbake, ancien calife général de la confrérie. Alors, pour les candidats aux élections, Touba est un passage obligé. Dr Shirgey a publié un livre sur l'histoire de la ville de Touba.
Le marabout est plus respecté par le citoyen. Et ce citoyen-là se reconnaît en son marabout, en fait son modèle et en fait son guide. De ce point de vue-là, le citoyen est aussi un disciple. Et l'homme politique est également un disciple.
En cas de tension, on demande au khalife de jouer au médiateur pour maintenir la paix, trouver des compromis. Pour le directeur de la bibliothèque de Touba, la confrérie ne fait que perpétuer la tradition musulmane.
Dans le contexte actuel, comme le veut le mouridisme, le khalife lance tout le temps des appels au calme, des appels contre toute forme de violence.
Léopold Sédar Senghor, de confession chrétienne, a mené une nation majoritairement musulmane parce qu'il a entretenu des rapports cordiaux avec tous les guides religieux. Une tradition perpétuée aujourd'hui par ses successeurs, l'influence des confréries n'est pas près de disparaître au Sénégal. Salwa Jafari, VOA Afrique, Touba.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise en Libye, l'ONU a fait état ce jeudi d'un accord sur l'organisation d'élections en Libye entre Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays. Les deux leaders ont conclu cet accord mercredi à Abu Dhabi sous l'égide de l'ONU. Ils se sont entendus sur la nécessité d'organiser des élections et de mettre fin à la période de transition, a indiqué dans un tweet la MANUL, la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution poussant à arrêter toutes les guerres en Afrique d'ici 2020. Les pays africains avaient pris cet engagement depuis 2013, mais ils ne l'ont jamais concrétisé jusqu'à présent, Nani Talani.
Il appartient à l'Union africaine, à ses États membres, à leur population et à leurs institutions, y compris leur société civile, de construire une Afrique sans conflit, souligne la résolution de l'ONU. Le Conseil de sécurité exprime son appui aux initiatives visant à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Le but d'une Afrique sans conflit figurait déjà dans une déclaration adoptée le 26 mai 2013 lors du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Union africaine. Un projet de résolution initié fin 2018 par l'Afrique sur un cofinancement par l'ONU d'opérations de paix africaines reste dans l'impasse. En 2019, les plus importantes opérations de paix sur le continent sont notamment au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, en Centrafrique ou au Mali. Pour jeter les bases solides d'une paix et d'une stabilité durable, l'ONU engage les États membres de l'Union africaine à renforcer la bonne gouvernance, l'élimination de la corruption, le renforcement des institutions démocratiques, le respect des droits de l'homme et la responsabilité.
Au Congo-Brazzaville, l'ancien ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, a nié mercredi avoir détenu illégalement des armes et des munitions de guerre. Il comparaît devant la justice congolaise qu'il accuse d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Raissa Girondin.
Je n'ai jamais détenu illégalement des armes et des munitions de guerre, a déclaré M. Okombi Salissa à son procès devant la cour criminelle à Brazzaville. Selon ce tribunal, des armes ont été saisies en 2016 dans un domicile appartenant à son épouse, 17 Kalachnikov, des lance-roquettes et plus d'une dizaine de caisses de munitions ont été présentées sous scellé à l'audience. L'expertise de l'armée a démontré que ces armes lui appartiennent. Elles ne peuvent pas appartenir à la fois à l'armée et à moi, a réagi l'accusé, ajoutant « Si je n'avais pas pris part à l'élection présidentielle de 2016, je ne serais pas ici, devant la barre ». Ancien membre du PCT au pouvoir, ministre dans tous les gouvernements de 1997 à 2012, André Okombi Salissa, 56 ans, est passé à l'opposition à l'approche de la présidentielle de 2016, remportée par Denis Sassou Nguesso. Monsieur Okombi Salissa n'a jamais reconnu les résultats, tout comme un autre candidat, le général Jean-Marie Michel Mokoko, 71 ans, ancien chef d'état-major, qui a été jugé et condamné en 2018 à 20 ans de prison.
Dossier nucléaire nord-coréen. Le président américain Donald Trump et le leader de la Corée du Nord Kim Jong-un se sont séparés sans accord après leur sommet à Hanoï au Vietnam. Le sommet était censé apporter de la substance aux engagements sur la dénucléarisation. Ce ne fut pas le cas. Eric Manirakiza.
Les deux dirigeants ont eu des réunions très constructives et ont discuté des différentes manières d'avancer sur des concepts en rapport avec la dénucléarisation et l'économie, a expliqué la présidence américaine dans un communiqué. Aucun accord n'a été conclu pour le moment, mais leurs équipes respectives ont hâte de se rencontrer à l'avenir, souligne par ailleurs le texte. Le sommet était censé apporter de la substance aux engagements pris à Singapour en juin dernier. Les deux dirigeants avaient alors écrit une page d'histoire, mais seulement signé une déclaration commune sur la dénucléarisation de la péninsule, les deux camps divergeant sur le sens de la formule. Si Kim Jong-un a évoqué à Hanoï la perspective d'une représentation permanente des États-Unis à Pyongyang, Donald Trump avait tempéré dès avant la rencontre les espoirs de percer à court terme. Je ne suis pas pressé de parvenir à un accord qui verrait la Corée du Nord mettre au rebut son arsenal nucléaire, a répété Donald Trump. La vitesse n'est pas si importante que ça pour moi, a insisté le locataire de la Maison Blanche.
Et pour terminer, États-Unis et talibans afghans marquent une pause dans les pourparlers de paix visant à mettre un terme au conflit en Afghanistan. C'est ce qu'ont indiqué les deux parties en soulignant que les négociations productives en cours à Doha au Qatar reprendront ce week-end.